Yann Morvan, l'artiste. Par Jean-Louis Vinet. Deuxième partie. On va parler de la guerre vive, c'est-à-dire celle que tu vis, celle qui existe, celle que tu couvres. Parce qu'on l'a vu, tu travailles sur les gangs, mais on voit aussi qu'entre 74 et 76, on l'a dit, tu rejoins Photolib, l'agence Photolib, puis Norma, on en a parlé. Puis tu rejoins aussi Match et le Figaro Magazine.
Ouais,
et à cette période, tu poursuis toujours ton travail sur les gangs. Mais c'est un moment très particulier parce que tu dois travailler sur les camps Khmer au Cambodge. Et tu te retrouves à Bangkok. Et là, tu t'amarres.
Bah, j'ai fait un an et demi de Figaro Magazine. Et j'étais pas fait pour ça, quoi. Parce que... j'étais salarié, très bien, j'étais le photographe du Figaro Magazine, je savais pas ce que ça voulait dire au départ, et puis quelque part, je me disais, ça y est, j'ai trouvé ma place dans la société, photographe, maintenant j'avais un 3 pièces rue Oberkampf, une moto, une 650 Kawa, j'avais le chauffeur de Louis Powell, Slavko, qui m'emmenait sur les reportages. Je mangeais dans les restaurants, j'ai pris des kilos et des kilos au Figaro Magazine. Tout le monde m'aimait, etc. Et puis, je me suis retrouvé le jour de mes 25 ans à Lourdes avec Geneviève Dorman, l'écrivaine. Et là, la nuit, j'ai entendu les gens qui se suicidaient de l'hôtel, parce que quand ils sont pas sauvés, ils vont dans la source, et puis que ça marche pas, il y a des jets par les fenêtres, ça arrive. Et là, j'ai flippé, j'ai eu un coup de stress, mais alors, on peut pas imaginer. Je suis rentré à Paris, donc on était en avril, et là, j'ai fait une crise de tétanie. Le SAMU est venu me chercher, etc. Il m'a dit, vous êtes défoncé, donc buvez pas, fumez. Je fumais un peu des cigares, mais très peu, je prenais pas de drogue. Et là, je me suis dit, il faut que tu partes. C'est un signe, il faut que tu partes. Donc à partir du mois de mai, j'ai préparé mon départ, etc. Donc j'ai quitté le Figaro Magazine en octobre. Après, j'ai fait la saison pour avoir un peu de sous. Et en octobre, j'avais prévenu, je dis, trouver quelqu'un d'autre. Moi, je dois faire d'autres choses. Et là, c'est là, en octobre, je suis parti en faire les punks pour Gamma, à l'époque, avec Tardy, qui était chef du département magazine. Il y avait Salgado, il y avait Tardy, enfin, il y avait deux, trois autres photographes. Donc je suis parti à Londres faire ça, je suis rentré à Paris. Et là, Christine, qui était mon amie, ma fiancée, elle était dans les Émirats arabes, elle faisait des peintures pour le Sheraton. Et donc elle m'a dit, écoute, je vais passer à Bangkok, rejoins-moi le 1er janvier à Bangkok. Et donc j'ai rejoint le 1er janvier à Bangkok. On est resté un peu ensemble, et puis après j'ai pété un câble là-bas, parce que c'était le fourreau brûlant de l'Asie, comme disait un de mes... un correspondant de la CIA là-bas, etc. Et puis je suis parti en vrille pendant 5 mois. Donc j'ai fait une histoire sur Bangkok, sur les milieux un peu, disons...
La marge.
Oui, parce que c'était le bordel c'était incroyable de voir à l'époque, c'était les comment ça s'appelait, Neckermann, les voyages organisés qui faisaient venir par charter des Allemands ou des Australiens pour venir baiser, etc. Il y avait des trucs qui étaient, mais c'était insensé. Il y avait un hôtel qui s'appelait le Grace Hotel, il l'appelait la Chicken Farm, parce que c'était des centaines de filles qui piaillaient comme ça en attendant les, mais c'était une vision apocalyptique, c'était du Jérôme Bosch, quoi. Et donc je me suis dit, il faut que je fasse ça, quoi. Voilà.
Et t'as glissé. Et t'as glissé.
Ouais, un petit peu, pas trop, mais un petit peu, parce que je faisais attention, mais il y a des moments, avec l'alcool, etc. Puis les enfêtes, ils me foutaient des trucs Puis j'avais plus d'argent, alors j'étais censé aller à la frontière avec le Cambodge pour faire la guerre, mais j'avais pas d'argent, le gamin envoyait pas d'argent, donc je faisais C'est vrai que je suis rentré, je vais faire 60 kilos. J'avais un pantalon de cuir noir, des bottes que j'ai toujours d'ailleurs, des bottes en python et une veste rouge avec des lunettes noires. Et évidemment, je suis rentré, il n'y avait plus rien, j'avais plus d'appart, plus rien, etc.
Malgré l'état, malgré la désespérance, tu ponds encore, tu fais un livre sur Bangkok. Tu as les images. Et donc Bangkok existe encore.
Ah ben oui, c'est la même chose. Hein. Je pense que ça n'a pas bougé là. Ça, c'est un peu plus sophistiqué, mais le problème, on parle d'esclavage sexuel. Etc. Alors j'ai été attaqué par les féministes, mais je pense qu'elles n'ont pas lu le livre. Parce que je raconte justement qu'il faut changer ça dans le livre. Mais bon, de toute manière, je ne pense pas qu'elles savent vraiment lire ou ni comprendre. Donc on ne reviendra pas là-dessus. Mais effectivement, là je ressors le bidonville. Là on parle de l'islam. Là je ressors les bidonvilles pour montrer ces gens-là dans quelles conditions ils vivaient. Alors comment on peut aujourd'hui leur reprocher d'essayer de vivre correctement, etc., etc. Alors qu'ils viennent de loin quand même, ces gens-là. Le problème aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, etc., et puis le monde, c'est qu'il n'y a plus de mémoire. On n'a plus d'histoire, on n'a plus de mémoire. Les jeunes, la joie, quand je parle même de Drakkar ou des choses comme ça, les gens oublient tout. C'est-à-dire que la durée de vie à peu près d'une information, c'est 2 ans, 3 ans. Après, on a déjà oublié. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont oublié les gilets jaunes déjà. Ça va tellement vite. Le système aujourd'hui, quasiment, on va pas dire orwellien, parce que bon, mais fait que pour éliminer l'histoire, la connaissance, et quelque part, on met tous les jours, on met de l'information. Là, il y a la guerre au Haut-Karabakh. Dans une semaine, je sais pas, ils sont à 5000 morts. On dirait complètement oublié, un truc comme ça. On peut avoir des massacres, c'est complètement oublié. Dans les années 70. Quand il y avait une guerre comme le Vietnam, on en parlait tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et puis le renversement, ça s'est fait avec les faits divers. C'est-à-dire que où ils ont été très forts, c'est qu'ils ont ils mettent les faits divers en avant. En partant du principe qu'on regarde sur TF1 le midi, c'est que du fait divers. Il y a pas de... Et en se disant, par exemple, on va dire, aujourd'hui, il y a une guerre au Karabakh, il y a 5000 morts, mais il y a une jeune fille qui a été tondue par sa famille. Ça, la jeune fille tondue par sa famille tchétchène, ça va faire 3 minutes. Le Haut-Karabakh, ça va faire 30 secondes. Parce qu'ils partent du principe que les gens, ce qui les intéresse, c'est l'information de proximité. Oui, ce qui est peut-être pas faux, mais ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que quand ils vont se retrouver au chômage, c'est pas l'information de proximité qui va les mettre. C'est les problèmes économiques, les guerres, le problème du pétrole qui se trouve là. C'est-à-dire que on les infantilise, les gens. Les vrais problèmes et le principe, c'est de les rendre complètement idiots pour les dominer. C'est tout. Et l'information aujourd'hui joue dans ce sens. Moi, je fais tout le contraire de ça. C'est-à-dire, je fais des livres en permanence avec. Je sais pas si tu as lu mon Pigalle. Je raconte Pigalle depuis 1750.
On va en parler. Hein,
et mon travail, il est là. Alors qu'aujourd'hui, on infantilise les gens en mettant en avant de l'émotion, parce qu'on dit, les directeurs de chaîne disent « il faut de l'émotion, les gens veulent de l'émotion ». C'est pas faux. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que je pense que nos ancêtres, par exemple, moi, mon grand-père qui parlait breton, qui parlait pas français, il a appris le français à la guerre. Après, il a monté une usine de briquets, ça s'appelait Flaminaire, etc., etc. Parce qu'il a appris. À l'époque, il y avait des instituteurs, il y avait des gens comme ça, il y avait moyen d'apprendre. Aujourd'hui, non, l'idée, c'est de désapprendre.
Le rôle aussi, c'est de susciter en permanence la curiosité. Et par l'endormissement, quelque part, on tait la curiosité des gens.
Absolument, on leur donne... Il y a un truc qui est terrifiant, c'est Cyril Hanouna, par exemple. C'est la pire des choses qui puissent arriver. Il a quoi, 2-3 millions de gens. C'est-à-dire, c'est comme un poison, quoi. Autant prendre de l'héroïne, hein, je veux dire, au moins, la morphine, au moins, on plane. Mais là, c'est un truc qui est terrible, parce que ça excite les tensions. Ça... On n'est que sur l'émotion. On dit, c'est de l'émotion, et ben, on le fait, pourquoi ? Parce que la marchandise, c'est de l'émotion. Vous allez acheter un McDonald's, c'est une vraie merde, hein, dedans un truc, etc., mais c'est l'émotion, c'est « Ah, regarde, c'est génial, wow, tu vas participer à un truc, ah, t'es dans la tribu McDonald's, regarde, je sais plus comment il s'appelle, le clown, machin, etc. » Donc on n'est que dans l'émotion. La consommation, aujourd'hui, c'est de l'émotion, c'est « Tu dois être la plus belle, je sais pas, il faut t'acheter du parfum, machin. » C'est de l'émotion. Et tout fonctionne sur l'émotion et plus dans la réflexion. Alors... moi j'aurais pu choisir le camp de l'émotion. Je l'ai fait à un moment donné quand je faisais de la presse avec mes images blockbuster, hein. Je sais pas si tu les connais, enfin, Drakkar, le pape, Lady Di, enfin toute la collection, je savais faire ça. Mais à un moment donné, je me suis dit stop à l'émotion, parce que l'émotion, elle tue.
Revenons sur ce fameux retour de Bangkok. Alors après, quand tu reviens avec plus rien, plus d'argent en poche, plus d'appartement, que se passe-t-il ?
J'ai un ami qui avait été au Figaro avec moi, mais au Figaro quotidien, qui s'appelait Xavier Martin. Et j'avais bonne réputation comme photographe, hein, avant. Hein, entre Figmag et Match, j'étais quand même déjà connu. Hein, j'étais pas... Et là, il me dit, Yann, tu peux pas rester comme ça. T'es quasiment une épave, il faut que tu te remettes à travailler. Et je lui dis, oui, je veux bien, mais il n'y a pas de problème. Mais t'as vu le look que j'ai, c'est pas... Le mec de Sigma, c'était des tons, des 100 kilos, t'avais des bureaux, des andansons, alors là, ça rigolait pas. Et les mecs de Gamma, c'était tous le même profil, un peu jeune beau mec en impermastique. Donc je faisais pas du tout dans le truc. Et là, il me dit, viens, on va faire un coup, tu vas faire un petit billet. Ce qu'on dit maintenant. Et là, il m'emmène faire. Il faisait du paparazzi, lui, il était très sympa. Il faisait. La baronne de Rothschild sortait avec l'actrice Marlène Dietrich. Et donc, elles étaient ensemble planquées dans un hôtel. Donc, on fait 3-4 photos, etc. Il va les vendre à Sipa. Et il m'amène à Sipa. Et là, je rencontre Gökçin Sipahyoglu, le patron de l'agence. Et Xavier lui dit, prends-le dans ton agence. Ce mec est génial. Et là, il dit, mais là, il veut pas de drogués chez moi. Il n'y a que des types bien. Regarde comment il est. C'est drogué, ça. Je veux pas ici. Et là, il y a Michel Chiche-Portiche, le vendeur qui arrive et qui dit, Gökçin, tu as tort. Ce mec est un formidable photographe. Moi, j'ai bossé quand il était vendeur d'agence. Quand il était à Match ou au Figmag, c'était le meilleur. Enfin, donc, tu devrais l'essayer. Et là, il regarde le vendeur. Chiche-Portiche fait la fortune, hein, si pas. Et il dit, bon, tu peux rester là-bas un peu, on va voir comment tu vas faire. Bon. Et donc, on est au mois de juillet, fin juillet, début août, à Sipa. Et alors, je suis très prétentieux comme garçon, mais c'est vrai, la différence avec les autres photographes, c'est que j'allais acheter Le Monde à 13h quand il sortait dans les kiosques, hein, à l'époque. Et donc, j'achetais Le Monde tous les jours. Parce que dedans, il y avait les infos. Et à un moment donné, il y avait une petite colonne où on disait, voilà, rumeur de coup d'État en Turquie, la Turquie, etc., etc. Et là, je vais voir Sipa, je lui dis, monsieur Sipa, il va y avoir un coup d'État en Turquie, j'aimerais bien le couvrir. Et là, il me regarde et il me dit, mais tu es fou, la Turquie, grand pays démocratique, tu es complètement fou, retourne là-bas, qu'est-ce que tu fais là, etc. Deux jours après, coup d'État en Turquie. Et là, il a été clean, Sipahyoglu. Il est venu me voir, parce que là, il y a tous les photographes qui radinaient en disant, on y va, avec ça. Et là, il me dit, non, Morvan, premier, dit, il va. Et j'ai fait 6 pages dans le Match.
Tu as commencé à en parler tout à l'heure, quand tu rentres à Sipa, tu te retrouves correspondant permanent de l'hebdomadaire Newsweek.
Oui, ça a commencé, j'ai fait la guerre en Irak en 80. Donc après la Turquie, donc on est en août, je fais mes 6 pages dans le Match. Là, commence la guerre en Irak. Et là, Sipa, il dit, bon, celui-là, il est peut-être pas mauvais. Parce que je suis parti que 2 jours en Turquie. Hein. Je suis parti le vendredi. Bon, je me suis débrouillé pour arriver. J'ai fait 3 films. Avec mon Leica, toujours le même, et je suis rentré. Et le lundi, pourquoi ? Parce qu'il y avait le bouclage de Match. Et là, Chiche est allé vendre et j'ai fait les 6 pages. Et là, il se dit, ouais, peut-être que lui, il a pigé quelque chose, que les autres n'ont pas, parce que les autres, c'était quand même. Moi, je ne citerai pas de nom, mais c'était des vrais bourrins. Hein. Et là, il me dit, tu pars en Iran. Il y avait Reza, qui était du côté iranien, qui pigeait, quoi, qui rachetait les photos des mecs sur le front, etc. Moi, j'arrive, je connais rien, et donc je passe un mois en Iran. Il y a un bouquin qui va sortir, d'ailleurs. Là, on est en train de préparer un hors-série Iran-Irak, parce que j'ai passé du temps, et les images sont intéressantes, avec le temps, etc. Ça montre, parce que l'Iran, c'est quand même aussi un grand pays. Donc, je fais ça, je rentre à Paris, j'ai peu de photos publiées. Il y avait très peu de publications à l'époque. C'était pas. La manne, c'était Newsweek et Time. Et pour bosser, c'est eux qui donnaient de l'argent pour faire des quarts de page. Et si vous n'avez pas Newsweek et Time, t'avais l'arrivée de VSD avec Siegel, hein, qui commençait à donner un peu de garantie, t'avais Figmag qui donnait un peu, et Match. Mais Match, ils avaient leur filière. Qui n'étaient pas les autres. C'est-à-dire que Match, ils n'ont jamais fait du grand photojournalisme. Hein. Il faut arrêter. Hein. Ils ont toujours fait des trucs un peu sur le côté, un peu tendancieux, un peu ceci, cela, etc. Qui continuent à faire, d'ailleurs. Et à l'époque, la seule solution pour travailler, c'était de choper des garanties. Garanties, c'est-à-dire que le journal ou Time, c'était l'aristocratie. Newsweek, c'était, disons, un peu plus gauche, républicain, démocrate. Et donc, ils donnaient à l'époque, c'était $350 par jour hein, pour couvrir, ils couvraient les frais. C'était le moyen de travailler. Mais ils donnaient ça pendant 3 jours, pendant une semaine, etc. etc. Moi, je n'avais pas eu pour la guerre en Irak. Après, je rentre, on est en septembre 80. Là, je tombe malade. Je sais pas, j'ai chopé un virus, je crois que c'est en Inde, je vais en Inde avec Philippe Flandrin, un type qui écrit des bouquins je sais pas ce qu'il est devenu d'ailleurs, je passe mes amitiés. Et on part en Inde, et je crois que c'est en janvier ou en février, là je chope un truc, je vais à la Riboisière, entre la vie et la mort, Et bon, j'avais je colloquais une piole avec Reza, il me porte sur le dos, à moitié mourant. Enfin, bon, bref, je sors un mois, deux mois après. Et après, je me remets à faire, à travailler un peu. Je pars en Irlande du Nord. Je commence à couvrir l'Irlande du Nord.
Justement, sur l'Irlande du Nord, on est en 81, donc tu as un an de SIPA à ce moment-là. Ouais. Là, tu te retrouves dans un truc dingue. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. C'est une guerre civile, entre guillemets.
Oui, mais personne ne veut en parler. Personne ne veut en parler. J'étais à Londonderry, j'étais un peu partout, mais j'y étais en 3-4 fois. C'est-à-dire que je me dis, il faut aller en Irlande du Nord, etc. Et donc, j'y vais en décembre. J'y vais en février entre mes... Je trade un peu quand même, etc. Et je me dis, je veux l'Irlande du Nord. Je veux faire l'Irlande du Nord. Ce qui a été très violent, c'était le Bloody Sunday. Après, ils se sont calmés, les paras. Et l'IRA, la nouvelle politique de l'IRA, c'est de mettre les jeunes, les enfants devant et pas tirer. Donc on est dans un contexte où c'est beaucoup moins dangereux. Bon, moi, je me suis pris une plastique bolette quand même. Hein. Bon, ça a pété mon Leica. Hein. Mais dans le front, il y a eu des morts. Il y a des morts, mais ce n'est pas des morts exprès. C'est pas de chance. Quoi. Je fais un enterrement d'un gamin à Londonderry qui a pris une plastique bolette dans le dos. Ça l'a tué. Mais... Là, ils tirent pas. Ils tirent pas pour tuer. Ils tirent pour faire du maintien de l'ordre, on va dire. Et bon, moi, j'arrive en décembre. Je fais deux, trois voyages en Irlande. Je me pose en Irlande. C'est-à-dire, je dis, je veux l'Irlande parce que quand il y aura Bobby Sands, je veux être là. Et je suis là quand j'ai Bobby Sands. Alors, là non plus, j'ai toujours pas de garantie. Ouais. J'ai pas une renommée formidable en tant que newsman. Donc, j'ai ni Time, ni Newsweek. Je suis dans un bed and breakfast à 7 livres la nuit. Je téléphone de l'Europa sur le compte du mec du JDD en me faisant passer pour lui.
Toujours pas de téléphone. Portable,
ah non, il n'y a toujours pas de téléphone portable. Non, c'est très compliqué. J'envoie mes films comme je peux avec d'autres photographes. Franchement, il y a Nachwe, il y a Pérez, il y a... comment il s'appelait, il y a Bureau qui arrive la veille de la mort avec tout le monde dans le repas. Dit, ça y est, on va se faire avoir. Parce que Bureau, c'était la légende totale, hein, Henri Bureau. Hein. Donc quand il arrivait, on savait qu'il avait des garanties de match, de Time, de Newsweek, de tout ce qu'on voulait, etc. Et il allait faire l'image, qu'il n'a pas fait d'ailleurs. Et non, personne n'a fait d'image parce qu'il est mort à 5h du matin. Toutes les femmes sont étaient dans les rues à taper les couvercles de poubelle. Et les émeutes ont commencé plus tard. Enfin bon, c'était tout le temps. Et donc moi, je fais ça au long cours. Quand je rentre à Paris, j'ai une double dans Stern et une double avec Magnum, avec Peter Marlowe. Peter Marlowe fait 8 pages, j'en fais 2 dans Stern. Avec la photo qui fait la couverture de mon livre, là, Bobby Sands. Et une double dans le Figaro Magazine. Et je me fais engueuler par SIPA qui me dit « Malva, tu es de la merde, tu n'as pas une garantie Newsweek et Time, etc. » Alors que les autres, c'était Philippou, il n'avait pas bien bossé. Bon. Et donc, 81, j'arrive le 10 mai 81, et là, le 10 mai 81, à l'agence, on me dit « Tu vas à la Bastille. » Et là, c'est après mon Irlande qui a été ratée, hein, entre guillemets, à l'époque. Ouais. Et ça, c'est intéressant parce qu'on peut parler après de comment on voit les images aujourd'hui par rapport à l'époque. Hein. Parce que j'avais pas le blockbuster. Le blockbuster, c'était pas ça. C'était une photo à la con. Nachwa, il avait fait un gamin avec un drapeau, avec des flammes derrière, un portrait, quoi. Et donc, à partir du 10 mai 81, je suis mis à pied. SIPA dit, t'es un mauvais photographe, je te garde quand même, tu vas faire que de la politique française. Donc, l'année prochaine, vous aurez un livre qui s'appelle 81, c'est-à-dire l'année de grâce au jour le jour. Et donc, le 4 juin 82, je me retrouve à Versailles pour le sommet des pays industrialisés, organisé en France. Et dans la salle, je crois que c'est le 4 ou le 5 juin, il y a Alain Mingand qui arrive. On est en haut, parce que pour les photographes sont en haut à Versailles, ils ont mis un portique pour qu'on puisse au télé photographier les grands de ce monde. Et Alain Mingand arrive, il doit être 4h de l'après-midi ou 3h, et il dit « Les Israéliens ont envahi le Liban ». Et là, tout le monde se retourne et les types partent en courant à l'agence. Et moi, j'attends et je fais les photos. Je rentre à Paris, je donne mes films, je n'attends rien parce que je suis à pied. Et une semaine après, SIPA vient me voir et me dit « Bon, Levent, Reza a été blessé à Beyrouth. Est-ce que tu veux prendre sa place ?»« C'est dangereux, mais tu peux prendre. C'est toi qui décides. Il y a garantie Newsweek. » Et je lui dis « On y va, Gokshine. » Et là, il tape sur la machine à café, il prend du pognon et on va bouffer. Et je pars le lendemain au Liban.
Le 23 octobre 83, c'est le double attentat contre les forces françaises ouais. et US, qui sont celles de l'ONU à l'époque. Et il y a le fameux immeuble du Drakkar français,
ouais,
où là, c'est quand même 58 Français qui explosent. Et tu es là.
Oui, j'y suis sans y être, parce que ça aussi, c'est une histoire incroyable, l'histoire du Drakkar. On m'en a voulu, j'ai tout entendu sur le Drakkar, sur moi. Pourquoi ? Parce que j'ai fait la une et 24 pages dans Match.
Merci.
Mais si je peux raconter l'histoire...
Et tu as eu un prix aussi.
Oui, bien sûr, mais bon, j'aime pas les prix. Alors,
non,
les prix pour la
On en parlera
la
plus tard, mais quand même, c'est ça, pour dire, c'est pour dire quand même.
Et comment ça s'est passé ? Ben, j'arrive à Beyrouth. Bon, je fais 82 jusqu'en septembre et je rentre à Paris où je vais à Berlin. J'ai beaucoup travaillé sur Berlin aussi, ce sera le sujet d'un prochain livre, on en parlera plus tard peut-être ou pas. Et Newsweek me propose, après l'attentat de l'ambassade américaine à Beyrouth en mars-avril 83, ils me proposent d'aller être leur homme à Beyrouth. Parce que j'avais bien travaillé en 82, j'avais double page, des machins, etc. etc. Il propose ainsi pas, il dit, est-ce que Morvan veut bien aller, on est en mi-avril, à Beyrouth, pour nous, en une garantie mensuelle. Bah, je dis, je suis seul, j'habite, je suis dans le quartier de l'horloge, dans une espèce de studio, et bon, et je dis, j'y vais, j'ai rien à perdre, j'ai rien à gagner, j'y vais, j'ai rien. Bon. Et je m'installe là-bas. Et je m'installe de avril, et quand on arrive le 23 octobre, j'ai fait une demi-douzaine de guerres libanaises et je suis fatigué. Je suis seul au Palm Beach Hotel. Je suis le seul locataire du Palm Beach Hotel. Pourquoi ? Parce qu'il est sur la ligne de front. Le propriétaire du Palm Beach ne veut pas recevoir des réfugiés. Donc il dit, moi j'ai des journalistes. Donc il me fait une chambre. J'ai une chambre sur la terrasse avec 300 mètres carrés de terrasse. Un majordome qui m'apporte le petit déjeuner pour genre quelque chose comme 100 € par jour. Que Newsweek paye, et je vois les obus passer au-dessus de mon truc tous les soirs, j'achète une immense télé, donc je vis là-bas, etc. Et j'ai mon chauffeur de Newsweek qui vient me chercher le matin pour aller au front, parce qu'il y a plein de fronts, hein, ça n'arrête pas, ils se battent de partout. Et ce jour-là, je suis dans mon lit, effectivement, à 6h, 6h30 du matin, j'entends une explosion, mais ça pète tous les jours, hein, la photo, là, c'est tous les jours qu'il y a un attentat. Bon, ça me réveille, je me recouche. J'ai un beeper. J'ai un beeper de. Il n'y a pas de téléphone portable, mais on a des beepers avec Newsweek. Une heure et demie après, deuxième explosion. Et là, il y a mon beeper qui sonne. Et là, ça veut dire que je dois rappeler la Newsweek. Et là, j'appelle, on me dit, écoute, apparemment, il y a une Jeep française qui a sauté, il y a 4 morts, il faut que tu ailles voir quand même. Je dis, oh, vous faites chier, encore un truc, etc. Et là, 10 minutes après, on sonne à ma porte, il y a mon chauffeur qui arrive et qui dit, Yann, viens, il faut y aller là, c'est sérieux. Il doit être 9h du matin, le truc s'est passé il y a 3h. On prend la voiture et on arrive devant le Drakkar. Et là, je vois l'immeuble effondré. Il doit être 10h du matin. Hein. Le truc s'est passé 3h auparavant. Hein. Je suis largué. Et puis je regarde ça et je me dis non. Je dis c'est pas possible. J'en peux plus, quoi. Je veux dire, j'en peux plus. C'est tous les jours, tous les jours. Alors évidemment, il y a quoi ? Il y a 100 correspondants. Hein. Ils sont tous là. Mais ils passent quoi ? Une semaine, 15 jours, etc. Moi, on m'appelle El Mokhtar de Beyrouth, le maire de Beyrouth, parce que je suis tout le temps là. Et quand ils veulent un pass, un truc avec le Hamal, enfin le Hezbollah, ils viennent me voir, ou les chrétiens. Donc je connais par cœur. Hein. J'ai fait 10 000 sujets. Bah, je sais pas si tu as vu mon bouquin Liban. Bah bon, je suis dedans. Et là, je dis non, là, j'en ai marre. J'en peux plus, là. Je fais pas de photos. Je m'assieds, je regarde. Et puis à ce moment-là, en haut du Drakkar, il y a de l'animation, il y a un truc comme ça. Puis je vois un mec qui cavale partout, des mecs qui cavalent et tout. J'ai un Nikon F3 Titan avec un 180 mm. Je fais 3 photos comme ça. Mais un réflexe. Et puis tout d'un coup, j'entends des hurlements, des cris. Et là, bon, bah, je me rapproche. Bah, là, il y a la scène qui arrive. Les mecs qui sortent le truc et puis ils voient une main qui sort et tout. C'est un miracle parce que le type, il est vraiment sous les décombres. Et je fais l'histoire. Je fais toutes les photos, etc., etc. Après, il y a mon chauffeur. Je lui dis, bon, pour moi, c'est pas un... je suis content pour le... Mais c'est pas le scoop, quoi. Hein. Bon. Et je lui dis, bon, viens, on va voir les Américains. Parce que je suis censé travailler pour Newsweek. Hein. Je suis pas censé faire les Français. Mais je me suis arrêté là, comme ça. Pas pour faire comme ça, un peu... Et puis, il est trop tard. Et puis, je me suis dit, bon, c'est mort pour moi. Et j'arrive aux Américains. Là, J'ai droit à tout, hein, style ouais, qu'est-ce que tu fais là, t'as vu, il est midi, etc. J'ai tout. Tout le monde me tombe dessus à bas raccourci. Je fais quand même quelques photos, une qui fera une double page dans Newsweek d'ailleurs, etc. Et tout le monde me tombe dessus à bas raccourci. Je rentre. Je rentre à l'hôtel, je garde mes films, c'est de l'Ektachrome 200, je garde tout avec moi. Puis le lendemain, j'ai un coup de fil, c'était un caméraman de la 2 à l'époque, bah, c'était, comment il s'appelait, c'est pas France 2, c'était l'antenne 2, ou antenne 2, qui m'appelle, qui dit « Écoute Yann, je rentre à Paris, là, si tu veux, je peux amener tes films, on était potes. Hein. » Et je lui dis « Ouais, si tu veux, bon, tu sais, j'ai rien. » Il me dit « Non, donne-moi tes films, etc. » Bon, je lui donne les films. 3 jours après, j'ai un coup de téléphone, c'est Bernard Bisson, photographe. Il est chez Sigma. Bernard Bisson, que je connais, il a été mon assistant en 77. On a fait des Polaroids à la terrasse des cafés ensemble pour bouffer. Et il tenait le relais 36RE et moi je faisais un Polaroid pour au café de Flore, etc. Donc il m'appelle, il est chez Sigma, il me dit « Alors grand maître, bravo ». Je lui dis « Qu'est-ce qu'il y a, bravo ?» Il me dit « Tu sais pas ?» Je lui dis « Non. » Il me dit « T'as fait la une et 24 pages dans Match. » Ça me fait ni chaud ni froid. Tu sais, quand t'es dans la guerre comme ça, mais pendant des mois et des mois, tu dis « Ah bon ?» Et bon, parce que c'est quand même des morts, tu vois, quand t'es... Bon, moi, j'ai marché sur des cadavres, hein, je veux dire, tu pas... Il y a un type, un connard qui s'appelle Rogers, qui travaillait au Monde à l'époque, une fois dans un pince-fesse, il m'a dit « Alors, t'as gagné plein de fric au Liban ?» Je lui dis « Mais attends, tu crois que tu penses à ton compte en banque quand les mecs ils te tirent dessus ?» Je lui dis « Mais t'es malade de... » Quand je parle du réel et des gens qui comprennent pas comment on vit les choses, tu vois, comme dans aujourd'hui les sociétés, dans les ghettos et tout, ils peuvent pas comprendre comment ça se passe. Et là, je dis à Bernard « Ah bon ?» Bon, bah ok. Mais ça me fait ni chaud ni froid. Je veux dire, j'ai qu'une envie, c'est de foutre le camp. Parce que j'en peux plus, quoi. Je veux dire, c'est, tu sais, tu bouffes de la guerre pendant 6 mois, à la fin, t'es... Ouh, bon. Et alors après, une semaine après, mais tout le monde me fait la gueule. Hein. Je peux t'assurer que plus personne, il n'y a plus un photographe qui m'adresse la parole. Parce que dans leur tête, tu sais, ils ont dans un truc, j'avais calculé...
T'avais calculé le coup.
Ouais, j'avais calculé le coup, j'avais appelé personne, tu vois, je m'étais débrouillé, j'avais magouillé, tu vois... Alors que c'était pas du tout ça, quoi. J'ai même eu droit à Michel Guérin, à un article dans son livre, là, où il dit que je suis pas un escroc.
Alors que ce qui est intéressant à rappeler, c'est que quand même, à cette époque, quand tu parlais 24-36, quand tu fais ta photo, tu sais pas quelle va être la photo. Tu la vois pas, la photo.
Tu vois pas,
des rouleaux, puis c'est
apparaît
que ça
se développe. Tu sais pas.
On n'est pas dans le numérique, on n'est pas dans « tiens, je vais la refaire, j'en fais 600 ». C'est ça qu'il faut vraiment bien expliquer pour ceux qui sont nés après, post-argentique. Ah bah
parce qu'ils voient tout de suite leur merde, si oui. Alors que là tu découvres, c'est extraordinaire d'ailleurs. Ben ouais. Je veux dire, moi, je continue à faire ça, Là, j'étais au Mali avec la Légion étrangère, j'ai fait du Leica, hein, avec le nouvel Ektachrome, hein, j'ai pas... C'est insupportable de voir la photo sur le moment. Alors là, on parle de désenchantement du monde, alors on est à fond dans le désenchantement, hein, parce qu'il n'y a pas plus magique. Là, par exemple, à Corbeil-Essonne, j'ai fait 20 portraits là, les 15 derniers jours, je ne les ai pas vus, ils ne sont pas développés. Je panique, parce que des fois, c'est rock'n'roll, hein, la 20-25, etc. Il y a du jour et tout, et puis je me dis, mais comment ça va être. Et là, je commence à être fébrile, en demandant au type qui va me le développer, tu prends quel révélateur, et quand je vais les voir, ça va être... Ah, je ne vais pas les aimer, j'aime pas mes photos au truc, mais après, comme Hexagone, quand j'ai fait Hexagone pendant 2 ans, ça m'a fait chier, quoi. Je veux dire, je voyais les photos, je me dis putain, il y a des photos pourries, des portraits.
Mais après, tu les habites.
Et après, tu regardes, et tu sais, elles prennent avec le temps une patine, quoi, tu sais, un truc. Mais quelle excitation de ne pas voir, et puis même de rater. J'ai par exemple, j'étais en 2017, j'étais en Ukraine. Et c'est Lochon qui m'a ramené des films des États-Unis, ils étaient tous voilés. Je veux dire, j'ai la moitié de mes photos, il y a des voiles ça, sur l'Ukraine, alors que je me suis fait le con, alors, gilet pare-balles sur les premières lignes, etc. T'as la moitié des films qui est voilée. Mais c'est pas grave, si tu veux. Mais au moins, mais même la photo, je préfère l'imprimer dans un livre voilé, bah, parce qu'on voit encore quelques trucs, si tu veux, ça a plus de valeur qu'un truc parfait, qu'un color inodore.
Mais au Liban, quand tu vas rentrer, tu vas y retourner, et ensuite...
Je fais 84 aussi, et puis...
Et tu retournes avec une... cette fois-ci, tu photographiais la chambre avec une Linov Technica,
ouais.
Une 4-5 alors, déjà, que tu balades sur l'épaule, quoi.
Pourquoi ? Alors, pourquoi j'ai fait de la chambre ? J'ai fait pendant 82, 83, 84, j'avais les blockbusters du Liban. Et puis, tu sais, tu es là, tu, puis moi, je me fatigue vite, hein, je m'ennuie très vite. Et je me suis dit, mais attends, j'ai photographié des gens en train de s'entretuer, je ne sais pas qui c'est, j'étais à l'hôtel, j'ai un chauffeur, je fais quoi là? Je veux dire, c'est quoi mon truc? C'est de, je suis une espèce de, bon, j'ai gagné un peu de sous, tout le monde me déteste, si tu veux, je dis, c'est pas une vie ça. Je veux dire, et je veux dire, mais putain merde, j'ai quand même, ces gens-là, ils m'ont accueilli, je vais raconter l'histoire de ces gens-là. Et donc je cherche une idée, parce que tu vas pas aller à un truc, et puis là il y a le truc, il y a la ligne de front, la ligne de front c'est toujours un truc, et je me dis, je vais faire la ligne de front de démarcation entre l'Est et l'Ouest. Et du côté Ouest évidemment, parce qu'à l'Est il n'y avait plus rien, ils ont tous déserté, alors qu'à l'Ouest c'est les populations chiites, qui eux n'ont pas les moyens de partir. Donc je vais faire raconter l'histoire de ces gens de l'aéroport, enfin bon ça se termine, jusqu'au port, bah, disons à peu près en bas de la montagne, il y a 25 km, et je prends 2 mois pour faire ça. Et je fais. Alors, je veux dire, alors, à Paris, je réfléchis à ça en avril-mai, et je commence à acheter une chambre 4-5. À l'époque, il y avait un boulevard Beaumarchais chez Cipierre, donc un truc d'occasion, hein, avec ça. Et je commence à photographier avec la chambre. Bon, il comprend rien. En plus, il me vend un chargeur de 6 films dedans, enfin, insupportable. Enfin bon, un truc de pied nickelé que j'ai, etc. Et je pars au Liban. Pourquoi? Parce qu'il y a la prise d'otage de la TWA et Newsweek me donne, non, c'est Time qui me donne une grosse garantie pour partir. On est en juin.
Mais ils savent que tu pars avec une avec
non 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 on part en juin et je pars avec Leica machin et la chambre et je me dis je vais commencer à faire des prises de vue donc je couvre la prise d'otage, il continue à me donner ma garantie, je me mets à l'hôtel Summerland, et là je commence à faire des essais de chambres, mais qui sont dans le livre d'ailleurs, que des paysages que j'ai publiés dans le Liban. Et après, je me dis, bon, je m'entraîne, j'envoie à Paris, bon, ça bougeait, on pouvait faire venir, je revois les trucs, les erreurs, je change de châssis, il y en a un qui pète, je le fais, bon bref, je prends des châssis Fidelity plutôt que ça, enfin bon, disons, en un mois, disons, je calcule le truc technique. J'habite à Beyrouth hein, pendant un mois. Hein. Je démarre la ligne verte. Alors je dis à Sipa, envoie-moi tant de films, envoie-moi du Polaroid, envoie-moi ça, j'ai une idée, je vais faire ce reportage. Et à l'époque, je suis quand même la star de Sipa. Hein. J'ai le coup, j'ai le truc, j'ai les prix, j'ai tout. Je peux te demander ce que je veux. Et là-dessus, Sipa, il dit, vas-y, fonce. C'est un mec génial. Hein. C'est-à-dire que Sipa...
Il sait que tu vas travailler à la chambre.
Oui. Et il est d'accord. Il dit, banco, on tente le coup. Et donc, je vais rester un mois et demi à photographier la chambre. Alors, c'est compliqué parce que c'est des Iraniens. Et alors, moi, j'ai mon joker, ça a été les Polaroids. C'est-à-dire que les mecs, ils disaient, toi, tu fais pas de photos. Je fais, non, moi, je photographie les enfants. Et donc, je faisais un enfant, je lui donnais le Polaroid. Après, t'avais tous les mecs avec les flingues qui me braquaient en me disant, maintenant, tu prends nos photos. On veut des Polaroids. Donc, j'ai réussi à faire ce truc grâce aux Polaroids. Je les ai toujours, d'ailleurs. J'ai une boîte de Pola, etc., avec les noms des gens derrière, machin. Et je fais toute la ligne verte, comme ça, à peu près jusqu'au port. Et là, il y a mon pote à moi, qui était un prince chiite, qui était un mec haut placé des services secrets du Hamas à l'époque, Hezbollah. Enfin, de l'Iran, il vient me voir, il me dit « Yann, tu t'en vas, s'il te plaît. » Là, les Iraniens ont demandé à ce qu'on te kidnappe. Voilà. Donc, je fais mes clics et mes claques, le lendemain, je rentre à Paris. Mais bon, j'ai fait toute l'histoire. Et à ce moment-là, je fais développer chez Publimode, et je l'amène à l'agence. Donc, j'ai un paquet comme ça. Et là, il y avait un rédacteur en chef qui s'appelait Claude Tiercé, à cette époque. Et Claude Tiercé était le rédacteur en chef de l'AFP à Strasbourg. Il me dit, tu sais, Yann, je connais bien... Alors, je vais à Arles montrer mes photos. Alors là, tout le monde dit, t'es gentil. Déjà, tout le monde s'est foutu de ma gueule au Liban avec ma chambre. Hein. Ils m'ont tous dit, non mais attends, l'ancêtre... Ma carrière est déjà finie. J'ai 31 ans, et mes grandes heures de gloire, c'était 82, 83, etc. Et ils considèrent que j'ai déjà fait mon temps. Bon, je suis avec la chambre, je suis un ancêtre, je suis un vieux photographe, je suis has-been. En plus, bon, j'ai 2 enfants maintenant, puisque entre-temps, avec ça, donc je compte plus. Et quand j'arrive à Arles, on me dit, mais attends, tu sais, la technique a évolué, hein, maintenant ils font des appareils portables, tu sais, avec des films 35 mm, tu devrais acheter ça, tu sais, foutant de ma gueule. Je dis, attendez, Claude Tiercé, donc, à l'agence, est pote avec le rédacteur en chef de Géo-Allemagne. Géo-Allemagne voit ça, ils me font 20 pages. Alors là, c'est parti. Et c'est parti. Et après, donc, j'ai continué. Alors, à faire la chambre, j'ai fait les gangs en France, etc. Et puis, SIPA m'a salarié, très bien, j'ai le plus gros salaire de SIPA. Et puis, je n'ai pas pu supporter, quoi, parce qu'il me demandait de faire des choses qui ne m'intéressaient pas.
Pas sûr qu'on peut dire que tu as fait l'Iran, l'Irak, on en a parlé, tu as fait le Liban.
Après, j'étais en Ouganda en 86, là, je sors un bouquin sur l'Ouganda. J'ai fait plein de trucs.
Plein de choses. Mais ce qui est intéressant,
et plus d'outshot.
Parce que tu parlais tout à l'heure de la fatigue du Liban. Mais à un moment, c'est la fatigue du photojournalisme. C'est-à-dire que tu es au Kosovo à ce moment-là.
Je ne supportais plus le hot shot. Tu sais, quand t'en fais, quand t'en fais pendant une semaine, 15 jours, en envoyé spécial, mais quand tu restes 8 mois d'un coup, à un moment donné, c'est toujours les mêmes images, les mêmes attitudes. C'est trivial, la guerre. C'est un truc salace, c'est pas beau.
Et au Kosovo, c'est le trop-plein.
Le Kosovo, je pars en 99 pour... Pourquoi ? Parce que Sigma me demande de bosser avec eux et ils veulent un cador de la guerre. Donc j'ai quand même fait. J'étais entre-temps en Afghanistan, j'étais au Cambodge. Enfin, j'ai fait. Mais pas des hot shots. Quand j'ai fait le siège de Kandahar avec les talibans, mais je me fais tirer dessus par les chars russes. Mais si tu veux, c'est pas du. Comme au Liban, tu étais au contact. Tu vois. Et c'est pas facile, les guerres au contact. Comme là, on voit pas d'images. Les seules images qu'on voit du Karabakh, c'est des mecs qui tirent. Ça, c'est le grand classique. T'as un 155 qui tire, ils ont toujours fait ça, etc. Mais pour aller sur le terrain avec les mecs, ça marche pas. C'est très, très rare. Ben, y a très peu de gens qui savent le faire, qui peuvent le faire, ou alors c'est des militaires. Donc, je fais pas mal de magazines conflits, Sri Lanka. Et Sigma me demande. Alors. Donc en 94, j'ai mon histoire gang Guy Georges, 95. Donc là, j'arrête de photographier pendant un an. J'arrête là, parce que bon, c'est quand même rock'n'roll, le Guy Georges, quand le mec qui essaye de te trucider. Et là, je ne veux plus faire de photos, quoi. Et donc là je propose de travailler. Je pense que ma carrière est morte. On est en 94, quoi, je vais avoir 40 ans. Je me dis, ça va, j'ai fait 20 ans de photojournalisme, c'est bon pour moi, donc je vais enseigner. Et malheureusement, heureusement, le virus me reprend en 97. Et là, il y a un pote à moi, avec qui j'avais fait les gangs, qui s'appelle Jean-Marc Barbieux, qui me propose de repartir faire le Burning Man aux États-Unis. Je dis, ouais, je vais le faire. Et je le fais au Leica. Et là, le virus reprend, quoi. Je me remets à photographier à partir de... Donc j'ai une année 96 qui est morte. J'ai rien en 96, j'ai pas fait... Alors j'ai créé photographie.com, si. Ça, j'ai fait ça avec Didier Defay et Jean-François Boret, qui est malheureusement décédé. Et je crée photographie.com, et là, je me vois rédacteur en chef d'un magazine, je me vois enseignant, je me vois, disons, passer de l'autre côté. Donc, et en 97, je reprends le truc. Donc, je fais encore un peu photographie. Avec Jean-François, on le laisse à Didier. Et puis, moi, je me remets à photographier. Donc, je me retrouve au Kosovo à l'époque. Je lui dis, il faut que je trouve une agence pour refaire du hot shot. Et donc, Claude Tiercé, qui était chez SIPA, est rédacteur en chef chez Sigma. Et donc, il me propose de venir. Et donc, le premier sujet qu'on va faire, c'est le Kosovo. Mais là, je propose une idée. Parce que, entre-temps, évidemment, ligne verte, etc. Puis j'ai toujours fait des choses avec des idées quand même. Il y avait toujours un pitch, on va dire. Et là, je dis, je vais aller au Kosovo, parce qu'il y a déjà 10 000 photographes. Mais j'ai photographié les gens au Hasselblad, avec un éclairage que j'ai mis au point Norman, enfin un truc assez sophistiqué, mais portable. Et je vais demander aux réfugiés quel est le dernier objet qu'ils ont emmené avec eux du Kosovo. Et donc, je vais rencontrer une vingtaine ou une trentaine de gens et leur disant quel est ce que vous avez emmené, le dernier objet. Alors, il y en a une, c'est une statue, l'autre, c'est un livre. Donc, ils posent tous. Je pourrais te montrer des photos. C'est très bien éclairé, fait au Hasselblad avec un objet. Et là, je fais 20 pages d'Andy, etc. En France, ça n'a pas pris parce qu'ils étaient encore aux images classiques, si tu veux. Et à ce moment-là, je me retrouve à... Alors, il m'arrive des... J'essaie de passer les lignes, je me fais tirer dessus. Enfin, bref, les trucs que tu... Les basiques de la guerre, quoi. Même quand tu fais du magazine, t'es tout le temps dans... Tu peux pas... Parce que tu dois accéder à des gens et c'est pas simple. Enfin, tu connais l'histoire. Et là, vers la fin, je me retrouve à un checkpoint. Je vois une carriole arriver, tirée par une vieille bonne femme avec un mec dedans, et là, j'ai au moins 200 télé, caméras et tout, je me dis, qui essaye de se bousculer pour avoir la photo, il n'y a personne autour, on est tout seul. Et là, je me dis, non, là, ça va, là, j'arrête, là, je lève le pied, là, c'est plus pour moi, tout ça. Je veux dire, c'est insupportable. Et pas parce que à cause de la concurrence, à cause de cette course de parce que c'est pas ça l'histoire. Je veux dire, l'histoire du Kosovo, etc. C'est faut la raconter différemment. Faut pas parler des gens parce que cette inflation d'images de misère, même qu'on voit aujourd'hui, ça n'apporte rien. C'est un repoussoir. C'est-à-dire que les gens n'ont pas envie de savoir. Et, oh là là, on a... et ça fonctionne en disant, regardez, vous avez de la chance. OK, vous n'êtes pas payé cher, mais hey, vous avez les soins gratuits, vous avez la télé, vous avez ça. Vous avez vu là-bas. Vous avez vu là comment ils morflent là-bas, ces gens-là, hein. Donc ces images-là, elles ne sont pas faites pour avoir de l'empathie pour les autres. Elles sont faites au contraire pour les refuser. Moi, j'ai toujours refusé de faire du misérabilisme. La seule chose que j'ai fait, c'est ça, c'est le Rwanda en 94 pour MSF. Pour MSF. Et à l'époque, quand j'ai fait la famine, j'ai dit, OK, j'ai fait pour MSF, je ne ferai plus jamais une famine, etc., etc. Pour moi, les famines, les choses comme ça, c'est pour des photographes de l'AFP, d'AP, des gens comme ça, qui vont donner de l'information. Mais pour un photographe auteur, etc., non, non, c'est pas possible, ça, c'est pas jouable. Enfin, pas pour moi.
Troisième partie à suivre.